Pardon. Bonjour à toutes et à tous, notamment les personnes d'entre vous que je n'ai pas forcément eu le temps de saluer ce matin. Avant de commencer cette prédication de ce dimanche, j'aimerais revenir courtement sur la prédication de dimanche passé. Dans ma prédication, j'ai utilisé une figure de style qu'on appelle une caricature pour parler de certaines personnes qui avaient l'habitude de montrer de manière très ostentatoire leur amour pour Dieu, mais qui finalement, dans la vie de tous les jours, n'avaient pas vraiment une attitude qui était en accord avec ce qu'elle présentait. Et après réflexion et après discussion aussi avec d'autres personnes, je pense que c'était une maladresse de ma part d'utiliser une telle manière de présenter la personne. Non pas parce que je pense que le propos était faux, mais sans doute parce que la manière de le montrer n'était pas juste. Et du coup, je souhaitais vous demander pardon si jamais l'usage de cette caricature avait pu vous blesser, vous étonner, vous gêner, vous déranger ou tout autre sentiment négatif. Ça n'était pas mon but du tout, et sachez très bien que l'usage de cette caricature n'était que pour vous aider à comprendre une réalité bien réelle, que l'on retrouve parfois malheureusement dans nos églises, mais que je ne visais absolument aucune personne particulière lorsque j'ai fait usage de cette caricature. Et sachez d'ailleurs que si j'avais eu à reprocher quelque chose à quelqu'un, c'est en privé que je l'aurais fait, et pas du haut de la chair, parce qu'on ne règle pas ses comptes du haut de la chair. Du haut de la chair, on encourage ses frères et ses sœurs à marcher avec le Seigneur. Et c'est ce que j'espère faire ce matin avec cette prédication sur la Pentecôte. Alors, c'était dimanche dernier, la fête de la Pentecôte, mais nous n'avons pas besoin de ce jour particulier pour parler de l'œuvre de Dieu à la Pentecôte. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, au chapitre 2. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble les 13 premiers versets de ce texte. Le livre des Actes au chapitre 2, et nous lirons les 13 premiers versets ce matin. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion ?» Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, » disaient-ils, « ils ont trop bu. » Voici pour notre lecture d'aujourd'hui. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler de la Pentecôte ? Saint-Esprit, oui. Quoi d'autre ? Tu dis, pardon ? Oui, effectivement, c'est 50 jours après une précédente fête, qui est la fête de la Pâque, exactement. Parler en langue, effectivement. Quoi d'autre ? Shavuot, qui est le nom hébreu, effectivement, de la fête de Soukhot. Eh bien, c'est intéressant de faire ce petit exercice, parce que je pense que, comme beaucoup de personnes qui lisent aujourd'hui ce texte, eh bien, nous tombons dans ce piège de ne penser qu'au Saint-Esprit lorsque nous parlons de la Pentecôte. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse voir qu'il y a plus que ça à retenir de cette histoire de la Pentecôte. Nous verrons ce matin que la Pentecôte, elle va accomplir trois promesses que Dieu avait faites. La première promesse que la Pentecôte va accomplir, c'est la promesse que Jésus a faite en acte 8 à ses disciples quand il leur a promis de leur envoyer l'Esprit Saint. La seconde promesse que la Pentecôte va accomplir, c'est la promesse de salut pour les nations, qui est une promesse qui existe depuis l'Ancien Testament. Et la dernière promesse que la Pentecôte accomplit, c'est que la Pentecôte accomplit les paroles de Jésus en Matthieu 9, verset 38. Nous y reviendrons en détail. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples en acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et lorsque Jésus parle ici de témoins, eh bien, ce qu'il entend, c'est les témoins comme les témoins qu'on peut avoir dans un procès, dans un tribunal. C'est quelqu'un qui peut attester de la conduite, des actes, des paroles d'une autre personne. Les témoins sont apôtres du Christ dans le sens où ils vont pouvoir raconter les merveilles de Dieu. C'est ce que nous dit le texte ici. Chacun parle une langue nouvelle selon ce que le Saint-Esprit lui donne de pouvoir dire et il parle des merveilles de Dieu. Ils vont pouvoir parler des œuvres du Christ qu'ils ont vues de leurs yeux. Ils étaient là avec Jésus. Ce qu'ils vont annoncer à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde, ce sont des choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Ils ont été témoins oculaires de ces choses-là. Et ils vont en être témoins pour que d'autres puissent croire. Ils vont être témoins pour que d'autres puissent connaître Christ. Ils vont pouvoir raconter ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Ils vont pouvoir raconter ses œuvres. Ils vont pouvoir raconter sa mort et sa résurrection. Ils vont pouvoir raconter son départ auprès du Père. Ils ont vu Christ vivant. Ils ont vu ses mains et ses pieds, ils l'ont touché, ils ont vu qu'il est réellement vivant, ils ont mangé avec lui. Et Pierre, dans le discours qu'il va ensuite amener, eh bien, il va expliquer finalement qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce qui se passe, puisque les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et Pierre va expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant, d'où est-ce que l'on vient, qu'est-ce que Jésus a fait et pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Et dans les choses qu'il a vues et qu'il va raconter avec ses autres collègues apôtres, il va pouvoir raconter, comme il le dit au verset 22, que Jésus a accompli des miracles, qu'il a été livré et qu'il a été crucifié, qu'il a été ressuscité par Dieu. Et ça, Pierre le cite par deux fois, au verset 24 et au verset 32. Et Pierre dit que c'est-à-dire les apôtres, ils en sont tous témoins. Au verset 32, il dit « Nous avons tous vu, ils ont tous vu que Christ est ressuscité ». Et ils sont également témoins que Jésus est reparti auprès de Dieu pour siéger à sa droite. C'est ce qui est dit au verset 33. Ils sont témoins de toutes ces choses, des miracles, de la mort, de la crucifixion, de la résurrection et du départ de Christ auprès de son Père. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait sur cette terre. Ils en ont été témoins. Et l'apôtre Paul le dira même lui-même, hein, il nous est apparu à nous, mais il est aussi apparu à 500 autres personnes. Et quand l'apôtre Paul écrit, il dit « Dans ces 500 autres personnes, il y en a encore beaucoup qui sont vivants aujourd'hui. » Alors c'est le « aujourd'hui » de l'époque, on comprend bien. Ils ne sont plus vivants aujourd'hui, bien entendu. Ils sont témoins parce qu'ils ont vu et ils peuvent attester de la vérité qui concerne Jésus-Christ. Mais pour pouvoir faire ça, eh bien, il leur fallait quelque chose qu'ils n'avaient pas encore reçu d'une manière spécifique jusqu'à maintenant. Il fallait que Dieu envoie pour eux l'Esprit. Pour qu'ils puissent devenir témoins, il fallait que Dieu envoie l'Esprit Saint sur eux pour que l'Esprit Saint accomplisse en eux la tâche nécessaire, l'œuvre nécessaire pour qu'ils puissent à leur tour témoigner des œuvres de Christ. Pour qu'ils puissent faire des disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrêmes du monde, du monde, il fallait que Dieu envoie son Esprit Saint sur eux. Et l'Esprit leur donne ici de pouvoir parler des langues nouvelles, des langues qu'ils n'ont pas apprises, mais qui sont des langues humaines, puisque les personnes qui sont là disent « Voilà, on vient de toute cette liste de pays, de régions, de villes, mais pourtant nous entendons ces gens qui sont de Galilée, des gens qui sont sans vraiment une grande instruction, ces gens qui n'ont pas appris de langue étrangère, nous les entendons parler notre propre langue. » Et c'est ça que fait ici le Saint-Esprit. pour que les disciples soient témoins jusqu'aux extrémités du monde, en commençant par d'abord Jérusalem, eh bien, il faut que Dieu leur permette d'être capable de parler la langue de ces personnes qui sont là, pour que ces personnes puissent comprendre et recevoir le message de l'Évangile. En parlant ces langues nouvelles, ils peuvent être témoins de Christ auprès de tous, pour raconter tout ce qu'il a fait à tout le monde. Et c'est bien ce que fait Pierre d'une manière particulière par sa prédication. Il explique à ces gens qui sont là pourquoi est-ce que ces Galiléens parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Il les parle pour que vous aussi, vous puissiez venir au bénéfice de ce que Christ a fait et que je vais vous raconter. C'est ça que fait Pierre ici. Il explique, il explicite. Il y a cette perplexité des auditeurs et on peut la comprendre, cette perplexité. Imaginez-vous que je me mette à parler en créole ou toute autre langue que je n'ai jamais apprise, vous seriez sans doute les premiers bien étonnés. Et si c'était l'esprit qui me donnait de le parler, eh bien je le parlerais en plus mieux que vous. Ah, excusez-moi, mais ça n'est pas le cas, je ne parle pas créole. Mais bon, pas ni problème, ça ne me dérange pas. C'est à peu près la seule chose que je sache dire. Mais les auditeurs sont perplexes, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, on a, face à cet étonnement, on a deux réactions toutes différentes. Certains se demandent, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ils s'interrogent, ils se disent, mais si ces gens-là peuvent parler des langues humaines qu'ils n'ont pas apprises, mais qui veulent dire quelque chose pour ceux qui les connaissent, qu'est-ce que c'est le sens de tout ça ? On a ceux qui sont prêts à entendre, à écouter et à être enseignés. Et de l'autre côté, eh bien, on a les personnes qui, elles, sont de toute façon pas du tout prêtes à vouloir entendre quoi que ce soit et qui disent, de toute façon, c'est juste qu'ils disent des choses parce qu'ils sont pleins de vin, ils ont trop bu. C'était 9h du matin. Sous-entendu, les apôtres de Jésus, c'est tous des alcooliques. Parce que pour avoir tellement bu à 9h du matin, il faut être alcoolique. Et c'est Pierre, qui le dit plus loin dans son discours. Il dit, mais non, mais ces hommes n'ont pas bu, il est 9h du matin. Personne n'a consommé d'alcool. Et puis si boire de l'alcool nous faisait parler correctement des langues humaines que l'on n'a pas apprises, eh bien je pense que ce serait bien alors d'en boire. Or, je pense que la Bible nous donne une image tout autre des personnes qui abusent de l'alcool et montre plutôt que, loin de produire des choses bonnes, cela produit plutôt des choses mauvaises. Et nous sommes appelés d'ailleurs à ne pas tomber dans l'ivresse. Mais il y a cette double réaction, ceux qui se posent sincèrement la question de comprendre ce qui se passe et ceux qui sont juste là à dire « c'est n'importe quoi ». Ils ont juste trop bu, c'est tout. Mais Pierre va leur expliquer, Pierre va leur parler, puis Pierre va leur exposer les choses qui se passent. Et l'Esprit va rendre la prédication de Pierre pertinente pour les gens qui écoutent. Pierre, il s'adresse à la foule pour répondre à ces gens qui disent « qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce qui est en train de se passer devant nous ?» On voudrait comprendre ce qui se passe là. Les apôtres se mettent à parler différentes langues pour rendre l'évangile accessible à tous. Et ce, peu importe d'où ils viennent. Il y a des gens qui viennent de pas très loin. Il y a des gens qui sont des... Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Jérusalem, peut-être les Jérusalémites. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont de Jérusalem, mais il y a des gens qui viennent même de Rome. Il y a des gens qui viennent de très loin et il y a des gens qui viennent de tout près, mais chacun entend l'évangile, la bonne nouvelle, les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Chacun est capable d'entendre le message, de le recevoir dans sa langue, à lui. Et ce jour-là, c'est 3000 personnes qui vont entendre la prédication de Pierre, qui vont s'y attacher à cet évangile qu'ils entendent et ensuite, ils vont croire à cet évangile et ils vont se faire baptiser. Et il se passe ici quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez pas mentionné quand je vous ai questionné tout à l'heure. La Pentecôte, c'est plus que l'action ici du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est ça qui compte aussi pour nous. L'Église dont nous faisons partie, elle est née à la Pentecôte. Et c'est pour ça que c'est un peu triste quand on dit « vous pensez à quoi ?» quand on parle de la Pentecôte et qu'on dit tous « on pense au Saint-Esprit ». C'est pas faux. Le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire dans la création de l'Église. Mais la Pentecôte, c'est notre fête à nous. C'est notre anniversaire, entre guillemets, à nous, en tant qu'Église. L'Église commence à la Pentecôte par l'œuvre du Saint-Esprit, bien entendu. Mais nous ne devrions jamais oublier que la Pentecôte, c'est la fête où l'Église a commencé. Jésus avait promis qu'il bâtirait son Église. Il a commencé à la Pentecôte. Nous ne devrions jamais oublier ça en tant que chrétiens. Si vous aviez été juif, vous m'auriez peut-être dit « Ah, mais Pentecôte, c'est le don de la loi » ou « Pentecôte, c'est la fête des premières récoltes ». Vous voyez comme notre arrière-plan nous fait voir les choses différemment. Nous avons besoin de nous rappeler que la parole nous montre que ces 3000 personnes, ce sont les premiers croyants, c'est le début de l'Église. L'Église commence telle que Christ la veut à ce moment-là, grâce à la prédication de Pierre qui parle de Christ. L'Église est née à la Pentecôte, sous l'action de l'Esprit qui qualifie les apôtres, et ce jour-là, les apôtres commencent le ministère qui leur a été donné par Jésus. L'Esprit que Jésus avait promis, il est bel et bien descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Ils ont bel et bien été témoins de Christ, ils ont raconté ce qu'il a fait à partir de ces moments-là. Jésus leur dit « Vous serez mes témoins », et ils ont été témoins à partir de ce jour-là. Et c'est important aussi pour nous de savoir que nous avons besoin de la présence et de la direction de l'Esprit-Saint dans ce que nous entreprenons. C'est important en tant qu'Église, mais c'est aussi important en tant que personne individuelle. Nous pouvons nous lancer dans beaucoup de choses, mais si le Seigneur n'agrée pas ce que nous faisons et s'il ne nous conduit pas par son Esprit, alors nous ne pourrons rien faire qui soit vraiment valable. Mais nous pouvons nous réjouir parce que nous aussi, nous pouvons être témoins de Christ. Pas parce que nous avons vu de nos propres yeux les choses que les apôtres avaient vues. Mais nous pouvons être témoins de Christ au travers de la parole des apôtres qui a été consignée pour nous dans la parole. Nous pouvons dire ce qui est dit ici, je le crois, pas parce que je l'ai vu, mais parce que Dieu a fait naître en moi la foi qui m'a permis de m'attacher à cette vérité, à croire que c'était vrai. Et j'expérimente aujourd'hui l'action de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Non seulement dans les choses peut-être plus intérieures, mais aussi dans les choses extérieures, aussi dans mes actes. Je peux témoigner que c'est vrai parce que je le vis. Jésus a dit à Thomas qui était un peu, je ne sais pas si incrédule c'est vraiment le bon mot, hein. Thomas avait besoin peut-être d'un peu plus de preuves que d'autres. Il lui a dit, Jésus, eh bien heureux ceux qui ont cru alors qu'ils n'ont pas vu. Et c'est vrai, nous sommes heureux parce que nous n'avons peut-être pas vu Jésus de nos propres yeux, mais nous avons pu croire à l'évangile qui nous a été annoncé, parce que l'Esprit-Saint nous a permis de nous y attacher. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer d'apporter ce même message auquel nous avons cru, eh bien nous pouvons continuer de l'apporter à d'autres pour que d'autres croient. C'est ce que nous avons voulu faire, notamment par la semaine d'évangélisation que nous avons eue pendant la période de Pâques. C'est vrai, nous n'avons pas été directement témoins de l'œuvre de Christ. Mais nous pouvons tous raconter comment nous avons rencontré Christ personnellement. Nous n'avons pas besoin d'un autre message que celui-ci. Ce message a été consigné pour nous, ce message qui parle de Christ, du salut, il a été consigné pour nous par les apôtres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour qu'il puisse, ce message, être infaillible. Et nous n'avons pas besoin d'autre chose pour aller au-devant des personnes que de l'Évangile. Paul, il rappelle aux Corinthiens qu'ils sont sauvés s'ils croient à l'Évangile tel qu'il leur a été annoncé. Paul souhaite que les Corinthiens se rappellent qu'il n'y a qu'un seul Évangile, qu'un seul message qui soit un message de vérité. Et si vous regardez ce que disent les différents apôtres dans les lettres qu'ils ont écrites, eh bien, aucun, ou même dans les actes, aucun ne va à l'encontre de l'autre. Ils disent la même chose, ils disent la même vérité, parce qu'il n'y a qu'un seul message qui puisse sauver les pécheurs. Et dans notre tâche d'évangélisation, alors que ce soit par des actions, je dirais, préparées, comme des semaines d'évangélisation ou autres, ou que ce soit dans des actions peut-être des fois plus inopinées, où le Seigneur nous ouvre une porte dans une conversation avec un ami, un collègue ou quoi, eh bien, nous pouvons vraiment nous préparer à ces moments-là. Nous pouvons compter sur l'aide de Dieu par son Esprit pour nous conduire, pour que l'on puisse dire les bonnes choses, que l'on puisse avoir les bonnes paroles, qu'on puisse avoir du discernement pour mettre des fois le doigt sur certaines choses que le Seigneur veut mettre en lumière. Et nous pouvons compter sur l'aide de Dieu pour nous conduire dans les projets dans lesquels il nous appelle lui-même à prendre part. Dieu est fidèle envers nous. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, à un ministère, eh bien, il ne se dérobe pas. Il ne nous abandonne pas. Et quand Dieu nous appelle à lui, lorsque nous nous convertissons, il nous promet aussi d'être avec nous. Il vient habiter en nous par l'Esprit Saint. Nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons servir Dieu avec fidélité parce que Dieu lui-même est présent en nous par son Esprit Saint. La Pentecôte, c'est donc l'accomplissement de cette première promesse que Jésus a faite aux apôtres, celle d'envoyer l'Esprit-Saint pour qu'ils puissent être des témoins. Et c'est ce qui se passe. Ils reçoivent l'Esprit-Saint, ils parlent des langues nouvelles, et en parlant des langues nouvelles, eh bien, ils peuvent... Quand je dis nouvelles, ce ne sont pas des langues qui ont été créées à la Pentecôte, c'est des langues qui existaient, mais qu'ils n'avaient pas apprises. Et au travers de cette œuvre de l'Esprit, ils peuvent du coup témoigner de ce que Christ a fait à toutes ces personnes qui viennent de différents coins du monde. Jésus avait fait une promesse et il l'a tenue. Il a accompli sa parole. C'est un événement unique dans l'histoire de l'Église, cette Pentecôte. Elle commence avec une onction toute particulière pour les apôtres qui annoncent les merveilles de Dieu à tous dans leur langue. Pierre, notamment, annonce le message de Christ. 3000 personnes se convertissent et se font baptiser, et ensuite, ces personnes-là rentreront chez elles et apporteront avec elles le message de l'Évangile, jusqu'aux extrémités du monde aussi. Et le fait qu'il y ait dans ces personnes-là des personnes qui ne sont pas juives de naissance, mais qui le sont devenues par conversion, ça nous montre aussi que la Pentecôte, elle accomplit une autre promesse, celle du salut pour les nations qui étaient étrangères au peuple juif. Les gens qui sont ici, ce sont des croyants qui sont de toutes les régions, de tous les pays environnants. Certains viennent aussi de Jérusalem, mais il y a des gens qui viennent de très loin. La loi, elle prévoyait que, en effet, les Juifs viennent à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, de la Pentecôte et la fête des cabanes. Et Dieu, finalement, se rend présent, se montre présent, se fait accessible à tous lors de cette fête de la Pentecôte parce qu'il sait que les Juifs de tous les coins du monde seront là. Il sait que les Juifs de tous les coins du monde seront là. Et Dieu va venir par le Saint-Esprit au travers des apôtres en permettant à ces gens qui viennent de tous les coins du monde de pouvoir comprendre ce qui est dit parce que les apôtres peuvent parler dans leur langue. Verset 6, en effet, chacun les entendait parler dans sa langue. C'est extraordinaire ce qui se passe. Dieu s'est rendu accessible à tous en parlant leur propre langue. À eux. Dieu s'est rendu accessible en allant vers les hommes, avec leurs moyens de communication à eux, leur langue à eux, celle qu'ils comprennent. La langue, elle aurait pu être une barrière pour annoncer l'évangile. Les apôtres, ils auraient pu dire, bon bah désolé, nous on parle araméen, un peu d'hébreu, un peu de grec, mais à part ça, bon, ben, ça va être difficile de t'expliquer quoi, parce qu'on parle pas plus de langue. Mais pour Dieu, ce qui aurait pu être une barrière pour le salut des personnes qui sont présentes, ça devient le canal privilégié qu'il va utiliser pour se faire connaître à tous. Vous ne parlez pas araméen, vous ne parlez pas hébreu, vous ne parlez pas grec, ça n'est pas grave. Moi, je vais vous rendre capable de parler chacune des langues des personnes qui sont devant vous, pour qu'ils puissent eux aussi entendre, recevoir, croire, être sauvés. Vous vous rendrez compte que c'est intéressant parce que Dieu aurait très bien pu se dire « Tous ces gens-là qui viennent ici, ils ne parlent pas l'araméen, mais je vais tous les rendre capables de comprendre l'araméen. » Il aurait pu faire ça, Dieu. S'il a fait que les disciples parlent des langues qu'ils n'ont pas apprises, il aurait pu faire que des gens qui n'ont pas appris l'araméen le comprennent. Pareil pour l'hébreu ou le grec. Mais vous voyez ce qu'il a fait. En Jésus-Christ, Dieu est venu vers nous dans ce que nous étions. Christ était entièrement Dieu, mais il était aussi entièrement un homme. Il s'est approché de nous d'une manière qui était comme la nôtre. Et là, Dieu refait la même chose. Il s'approche des hommes, non pas en leur demandant d'être capables de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, mais il s'approche d'eux par leur propre langue, en rendant ses serviteurs, les témoins de Christ, les apôtres, capables de parler leur langue. Dieu se met au niveau de ceux qui sont là, parce que Dieu veut aller vers eux. Dieu veut les rencontrer, Dieu veut se faire connaître à eux. Et Dieu n'est pas un Dieu élitiste qui se dit « Eh bien, faites des études, revenez, et quand vous arriverez à parler la bonne langue, vous pourrez recevoir le message. » Mais Dieu dit à vous qui n'avez aucune qualification, qui n'êtes absolument pas des érudits, « Je vais donner la possibilité de parler ces langues pour que tous entendent et que tous puissent croire. » Dieu s'est mis une fois encore au niveau des hommes qui étaient là présents à la Pentecôte. Et se rendant du coup accessible, eh bien cela permet que des personnes qui viennent de tous les coins du monde de l'époque puissent vraiment connaître Christ, puissent le rencontrer. Dieu utilise des langues humaines et les personnes qui sont là entendent ces langues, les comprennent et peuvent adhérer à ce message, reconnaître qu'il est vrai, qu'il est véridique, parce que le Saint-Esprit les touche et leur permet de le comprendre et de s'y attacher. Dieu se rend accessible à tous pour que l'ordre de mission des apôtres de faire des disciples de Christ dans toutes les nations puisse s'accomplir. Et cet ordre va continuer, notamment au travers de l'apôtre Paul qui va beaucoup voyager pour aller dans toutes les nations. Paul était même prêt à aller en Espagne. Dieu a donné un ordre de mission, il a donné des promesses, il les accomplit et il permet aux apôtres d'accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Avec Dieu, il n'y a pas de piège. Dieu ne leur a pas dit, avant que vous puissiez faire des apôtres, dans toutes les nations, vous allez devoir apprendre toutes les langues. Et quand vous aurez appris toutes les langues, vous pourrez partir. Dieu leur a demandé d'être là, d'être présent, d'être disponible, et c'est Dieu qui leur a donné ce qu'ils n'avaient pas. D'une manière extraordinairement prodigieuse, la puissance de Dieu s'est montrée pleinement par ce miracle des langues. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu il s'est aussi rendu accessible à des gens qui n'étaient pas juifs de naissance, des gens qui se sont convertis au judaïsme, mais qui étaient étrangers au peuple juif, à l'ethnie juive. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Nous ne saisissons sans doute pas à quel point le miracle qui se commence à la Pentecôte est quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à maintenant, à part de rares exceptions, si tu n'es pas juif, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Dieu avait choisi le peuple juif, et si tu n'étais pas juif, tu n'étais pas dans l'alliance avec Dieu. Et ici, Christ a fait son œuvre, il est mort, il est ressuscité, il est retourné auprès du Père, le Saint-Esprit est envoyé, les apôtres annoncent l'Évangile, et des gens qui sont juifs, mais pas d'ethnie juive, qui se sont convertis à la religion juive, peuvent eux aussi être sauvés par Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe à la Pentecôte. Pas juste extraordinaire dans le sens ça sort de l'ordinaire, mais extraordinaire dans le sens on n'a jamais rien vu dans l'histoire du monde entier qui ressemble à ça et on ne verra plus jamais rien dans l'histoire du monde entier qui ressemble à ça. Dieu se rend accessible à tous. Hommes et femmes, enfants ou personnes âgées, mariés ou célibataires, juifs ou pas juifs, on peut tous connaître Dieu à partir de ce moment-là. Je pense que sans doute les personnes issues du judaïsme, et je dirais du judaïsme pratiquant, eux comprennent peut-être un peu mieux ce qui se passe. Parce qu'ils sont baignés dans cette idée qu'il n'y a que les juifs qui peuvent recevoir la grâce de Dieu. Il n'y a que les juifs qui peuvent être aimés par Dieu, et les autres, c'est que des païens. Et quelqu'un, je crois, qui vient du judaïsme et qui se convertit, comprend à quel point c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Et j'écoute des fois des témoignages de personnes juives qui se sont converties et qui disent « Moi, on m'avait toujours dit, le Nouveau Testament, c'est un livre antisémite. Il ne faut pas lire ce livre-là. » Et ils disent « Mais on ouvre le Nouveau Testament, on lit que c'est l'histoire de Jésus qui est fils d'Abraham et fils de David et qu'il est né dans un village en Israël. C'est super juif. » Et après, ils disent « Et là, on se rend compte que jusque-là, on est passé à côté de tout. » Jusque-là, on nous disait « Jésus, ce n'est pas le Messie. » Et on découvre que c'est le Messie, en fait. Mais qu'en plus, il ne veut pas juste sauver nous. Il veut aussi sauver des gens qui ne sont pas juifs. On ne nous a jamais raconté ça. Hein. Nous, on nous a toujours dit « Les gens qui ne sont pas juifs, ils sont maudits par Dieu, quoi. Tant pis pour eux. » Alors peut-être, nous, on a du mal à saisir la grandeur de ce que Christ a fait. Mais ce qui se passe ici, c'est une chose qui est extraordinaire. Ça n'a jamais été fait avant dans l'histoire du monde. Jamais, 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 jamais. Christ accomplit les promesses qu'il a faites. L'Église commence et l'Église, ce sont des juifs qui reconnaissent Christ comme Messie et des non-juifs qui reconnaissent Christ comme Messie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le mur de séparation est tombé entre nous. Il n'existe plus de mur qui puisse séparer les juifs et les non-juifs par rapport à leur relation avec Dieu. Plus du tout, plus aucun. La Pentecôte, c'est vrai, elle ouvre en premier lieu majoritairement le salut aux Juifs par Jésus-Christ, mais ce salut, il va aller plus loin que juste les Juifs. Hein. Et le livre des Actes, il présente exactement ça.
Si vous lisez les chapitres 1 à 7, vous verrez que l'évangile est répandu dans Jérusalem. Si vous lisez les chapitres 8 et 9, vous verrez que ce sont la Judée et la Samarie qui sont touchées par l'évangile. Et si vous lisez les chapitres 10 jusqu'au chapitre 28, vous verrez que ce sont les extrémités du monde qui sont touchées. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Et le livre des Actes nous prouve que ce que Jésus avait donné comme mission, elle s'accomplit. La mission, elle s'accomplit. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans les extrémités du monde. Mais nous devons continuer d'annoncer cet évangile pour que d'autres puissent venir à Christ également. Et la Pentecôte, elle accomplit bien cette promesse, peut-être pas toujours bien visible, de l'Ancien Testament qui disait qu'il y aurait bien le salut un jour pour les gens qui ne sont pas juifs. Les Ninivites à qui Jonas va dire « Eh bien, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir », ils se sont repentis, ils ont reconnu leur faute. Mais ils n'étaient pas juifs. C'est une petite fenêtre, cette histoire de ce qui va se passer plus tard d'une manière généralisée pour les non-juifs. Et on peut voir d'ailleurs que Jonas, ce bon juif, il n'est pas bien content de ce qui se passe. Il dit « Mais c'était bien pour ça que je ne voulais pas y aller. Je savais que si j'y allais, tu allais les sauver. » Parce qu'il y avait de la dureté dans son cœur. Il y avait de la haine. Et je vais vous dire, cette haine de Jonas, elle était légitime. Elle était légitime envers les Ninivites, parce que c'était des meurtriers, c'était des gens extrêmement violents. Vous savez ce que faisaient les chefs Ninivites de Babylone quand il y avait un chef ennemi qui venait pour discuter un traité d'alliance ou quelque chose? Ils accrochaient dans des arbres les têtes de leurs précédentes victimes pour dire, vous voyez, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous, ce sera peut-être vous la prochaine décoration. Alors on comprend qu'il y avait peut-être de la haine et de la colère dans le cœur de Jonas. Mais la Pentecôte, elle nous prouve que Dieu, il n'a pas juste sauvé les Juifs. Il a sauvé tous ceux qui sont prêts à se reconnaître pécheurs. Même les Ninivites qui ont coupé des têtes et qui ont fait des choses horribles. On n'a peut-être pas coupé de tête, mais notre péché était tout aussi horrible devant Dieu. Mais Dieu a voulu nous sauver. Il a voulu nous sauver même si on n'était pas juif. Rahab, la prostituée de Jéricho, elle n'était pas juive, mais elle a été épargnée parce qu'elle reconnaissait qui était Dieu. Je ne vous ferai pas tous les personnages de l'Ancien Testament, vous en connaissez d'autres, bien sûr. Mais il y a une promesse qui est extraordinaire. Alors, il y en a beaucoup plus qu'une, mais j'en ai sélectionné qu'une. Dans Ésaïe, chapitre 49, les versets 1 à 6, vous pouvez simplement écouter et je dirais vous délecter de la parole de l'Éternel. Voilà ce que consigne Ésaïe dans ce chapitre. « Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi, et vous, peuple lointain, donc pas les Juifs, prêtez-moi l'attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguisée, il m'a tenu caché dans son carquois, il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. » Et là, il ne s'adresse pas au peuple d'Israël. Il s'adresse à son serviteur, à Jésus. Je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Jésus sera une lumière pour les nations. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et ensuite, il nous a transmis cette responsabilité en disant, vous êtes la lumière du monde. Israël, en tant que peuple, aurait dû être lumière pour les nations, mais ça n'a pas marché. Jésus devient ce véritable, ce vrai, ce bon Israël que Dieu désirait. Il en fait lumière pour les nations et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de Jésus, lumière pour les nations par l'Évangile. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit et il tient en réserve ma récompense. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu les messages de l'Évangile, qui n'ont pas voulu recevoir Christ. Jésus lui-même, regardant Jérusalem, a dit, mais combien de fois j'ai voulu te prendre sous mes ailes comme une poule qui protège ses petits, ou une caille peut-être, je ne sais plus. Mais tu ne l'as pas voulu. Mais l'Éternel me fera droit, et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob à lui, et pour rassembler Israël auprès de lui. En Jésus-Christ, les Juifs se retrouvent vraiment. Je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est la source de ma force. Il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » C'est une vérité de l'Ancien Testament. C'est quasiment 9 siècles avant la naissance de Jésus. La Pentecôte, elle accomplit ses promesses. Les Juifs de l'époque qui connaissent ces textes, en voyant des non-Juifs venir à l'Évangile, comprennent que ces promesses-là, elles se réalisent. Ça leur prend sans doute un peu de temps à vraiment bien comprendre, à bien réaliser, peut-être aussi à bien accepter ce qui se passe. Mais ce que Dieu avait dit qu'il ferait dans l'Ancien Testament, il le commence à la Pentecôte. Le salut est pour tous ceux qui reconnaissent Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et aujourd'hui encore, vous savez, la transmission de l'Évangile, elle va jusqu'au bout du monde. Elle se fait dans toutes les langues ou presque. On n'a pas besoin d'une langue particulière pour avoir accès à Dieu. Moi, je comprends plus ou moins bien des choses en hébreu et en grec. Mais même si je ne les comprenais pas, ce ne serait pas grave. J'ai rencontré Dieu quand j'avais 13 ans. Je parlais absolument 0 mot d'hébreu, 0 mot de grec. On n'a pas besoin d'une langue particulière pour venir. Il n'y a pas une langue plus sainte qu'une autre. Il n'y a pas une langue dans laquelle devrait être consigné l'Évangile pour qu'il soit mieux, plus pur ou plus juste. Ou alors, il faut que vous vous mettiez tous à apprendre l'araméen, l'hébreu et le grec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il n'a pas demandé à l'homme de se débrouiller pour pouvoir avoir accès à Dieu. C'est lui qui s'est rendu accessible à nous, en venant dans notre langue pour nous parler. L'Alliance biblique française, il y a 2 ou 3 ans, disait que la Bible avait été traduite de manière complète en 475 langues. Et qu'il y avait au moins un testament qui avait été traduit en 1240 langues. Et qu'il y avait au moins 823 langues et dialectes qui avaient au minimum un livre biblique qui avait été traduit dans sa langue ou son dialecte. Je crois même que la Bible existe en alsacien maintenant. Ça ne m'aiderait pas parce que je parle plus de grec et d'hébreu que d'alsacien. C'est vous dire, hein. Mais Dieu s'est rendu accessible à tous parce qu'il voulait que des gens de tout peuple, de toute nation, de toute ville, de toute langue, de tout arrière-plan culturel ou religieux puissent rencontrer Christ comme son propre Seigneur et son propre Sauveur. Dieu a voulu se rendre accessible à chacun d'entre nous. Il l'a commencé à la Pentecôte et il continue de le faire aujourd'hui encore. Ce que les disciples, ils ont commencé, nous, on peut le continuer comme des ouvriers fidèles envers Dieu pour être aussi une lumière pour les nations. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est Jésus qui l'a dit à ceux qui écoutaient son discours sur la montagne. Je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Jésus a été une lumière pour les autres peuples. Son salut est allé jusqu'aux extrémités de la terre et nous continuons d'annoncer ce salut là où nous sommes. La Pentecôte, elle établit une troisième promesse. Ou en tout cas, la Pentecôte, elle va accomplir quelque chose que Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 9, au verset 38. Dans la tradition juive, la Pentecôte, c'est la fête où on célèbre les premiers fruits de la moisson. On y a petit à petit aussi adjoint l'idée que c'était sans doute à cette fête-là que Moïse avait reçu la loi. Mais le sens premier de la fête de la Pentecôte, c'était de fêter le retour des moissons, les premiers fruits, les bénédictions que le Seigneur commençait à donner et qui allaient se déverser plus en abondance après avec les arbres fruitiers, etc., qui allaient vraiment donner tous leurs fruits. Mais on fêtait les premiers fruits qui venaient finalement à nous, qui venaient finalement vers les Juifs, grâce à l'Éternel. On remerciait Dieu pour les premiers fruits, pour les premières moissons. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 9, les versets 37 à 38. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est abondante. Jésus, il n'est pas en train de dire il faut que vous preniez une faucille, une pelle à vanner, et puis que vous alliez dans les champs ramasser des fruits et des légumes ou quoi que ce soit d'autre. Jésus utilise une image agricole pour dire il y a plein de personnes qui sont prêtes à recevoir le Messie. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu de personnes qui sont capables de leur apporter ce message clairement, pour qu'ils puissent y adhérer. Et Jésus dit, mais il y a quelqu'un qui a une solution pour ce problème. C'est que vous pouvez demander au Seigneur directement parce que la moisson est à lui, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus dit, la moisson, elle appartient à Dieu. Et du coup, puisqu'elle appartient à Dieu, ben, c'est Dieu qui peut décider d'embaucher, entre guillemets, qui il veut pour travailler dans son champ. Du coup, demander à Dieu de prendre des nouveaux employés pour aller dans son champ, pour aller faire sa moisson. Et cette moisson, elle a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, cette moisson, elle commence. Si l'Église démarre au jour de la Pentecôte, c'est justement pour accomplir ces paroles-là. Il y a une moisson d'âmes qui commence, 3000 personnes, c'est une grosse moisson. Mais vous vous rendez compte que c'est tout petit par rapport à tous ceux qui ont été moissonnés depuis. C'était juste des prémices glorieuses et extraordinaires. Mais ce n'était que le début de tout ce que Jésus allait accomplir au travers de ses apôtres jusqu'à ce qu'il revienne lui-même. Oui, la moisson, elle est abondante. Du coup, demandez au Seigneur, puisque la moisson lui appartient, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu a envoyé des ouvriers dans la moisson. Il a choisi ses 12 apôtres pour le faire et ensuite il y a adjoint Paul. Dieu a envoyé des ouvriers dans la moisson pour moissonner ses premières âmes, ces 3000 personnes. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Que ça se passe à la fête de la Pentecôte, c'était facile parce que du coup, les gens comprendraient la signification de ces 3000 personnes. Parce qu'il aurait pu le faire à la Pentecôte. Il aurait pu le faire à la fête des cabanes. Les Juifs étaient là de la même manière puisqu'ils devaient venir à Jérusalem. Mais ça avait du sens que ça se passe à la fête de la Pentecôte. Parce que c'était pour dire les 3000, c'est juste les prémices. C'est juste le début. Vous allez voir tellement plus que les 3000. Célébrez les 3000 parce que c'est les premiers fruits que l'Éternel donne. Mais l'Éternel va donner encore tellement plus de fruits. Parce que la moisson, elle est abondante. La moisson, c'est pas juste 3000 personnes. Je ne sais pas combien Dieu a sauvé de personnes hein, depuis. Dans toute l'histoire du monde, je ne sais pas combien Dieu a sauvé de personnes. Mais on sera sans doute plusieurs milliards dans l'éternité à louer Dieu. Ça sera une belle chorale. En plus, on chantera tous juste. Mais je ne sais pas combien Dieu a sauvé de personnes. Mais Dieu a voulu commencer cela, son œuvre, à la Pentecôte pour que ça ait du sens. À la Pentecôte, on fête les premiers fruits. Eh bien là, on fête les premiers fruits d'une autre moisson. Pas les fruits qu'on va manger, mais les fruits d'une moisson qui commence avec l'Évangile. Et ceux qui croient, eh bien, ils reçoivent en eux l'Esprit-Saint. Et vous savez comment est-ce que Paul y parle de l'Esprit-Saint dans ses lettres ? Comment il le qualifie ? Vous le savez, hein, en vrai. Hein. Je sais que vous le savez. Pensez dans l'esprit de la Pentecôte, dans l'idée de la Pentecôte, un terme qui ressemble à ceux qu'on a déjà vus maintenant. Paul dit que le Saint-Esprit, c'est les prémices, c'est l'acompte, c'est les arts des choses à venir. Paul y dit, le Saint-Esprit, c'est juste la première chose que Dieu veut vous donner. Sauf que la vérité, c'est que Dieu va vous donner beaucoup plus. Nous, on pourrait se dire, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit, ça me suffit personnellement. Si tu ne donnes pas plus, ce n'est pas grave. Mais Paul nous laisse entendre que le Saint-Esprit, c'est la première chose que Dieu va nous donner, mais qu'il va nous donner encore plus. Comme les 3000 âmes qui se sont converties là étaient les prémices d'une moisson beaucoup plus grande qui continue jusqu'à maintenant, de la même manière, Paul dit, eh bien, celui qui croit, celui qui rencontre le Seigneur, il reçoit l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint, tout aussi extraordinaire, glorieux, merveilleux que ce soit, c'est juste un tout petit quelque chose de ce que Dieu va vous donner. Alors si ce tout petit quelque chose est déjà si extraordinaire, imaginez-vous à quel point ce sera extraordinaire quand on aura tout reçu, quand on sera auprès du Seigneur, dans sa gloire, sur une terre avec des cieux qui seront renouvelés, où il n'y aura plus de tristesse, plus de maladie, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de péché. Le Saint-Esprit, c'est juste le tout début de ça. C'est juste pour dire, écoute, tu veux être sûr que tu vas avoir le reste ? La preuve, c'est que je t'ai donné l'Esprit-Saint. T'as le Saint-Esprit, t'auras tout le reste plus tard. Mais tu auras tout, je te donnerai tout. Et la première chose que je te donne, c'est l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint atteste qu'on est bel et bien enfant de Dieu. Mais rendons-nous bien compte, hein. Le plan de Dieu pour nous est extraordinaire. Nous aurons plus que la présence de Dieu en nous. C'est extraordinaire ce qui nous est promis. Jésus, en quittant ses disciples, leur a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Les disciples ont répondu. La moisson a commencé parce que les disciples ont répondu d'une manière favorable à cet ordre de Jésus. À Jérusalem, ils annoncent l'évangile à des Juifs qui sont venus de tous les coins du monde. Et 3000 personnes se convertissent. Et ainsi commence l'église de Christ. Et Christ continue de bâtir son église chaque jour. Ces gens sont rentrés chez eux, ils sont rentrés auprès de leur famille, de leurs amis. Ils sont rentrés dans leur maison et ils ont parlé de ce qui s'était passé. Ils ont parlé de l'évangile qui leur a été donné, qui leur a été confié. D'autres ont cru. C'est un effet domino, si vous voulez. Ça commence avec un et tous les autres suivent. Le ministère des apôtres y va porter l'évangile jusqu'au bout du monde romain d'alors, notamment par les voyages de Paul. La moisson des âmes a commencé ce jour-là, mais elle continue aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est toujours nécessaire qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et ce qui est bien, c'est que la moisson n'a pas changé de propriétaire. Elle appartient toujours à Dieu. Et nous pouvons toujours demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parfois, les ouvriers, c'est nous-mêmes. Parfois, les ouvriers, ce sont les autres. Des fois, Dieu en appelle d'autres, des fois, il nous appelle nous. Mais d'une manière générale, nous ne devrions pas tenir captif le message extraordinaire du salut qui nous a été fait. Peut-être, certains d'entre nous, nous avons des facilités à parler à des grands groupes. Peut-être, nous avons plus de facilité à parler à de petits groupes. Peut-être que nous avons une certaine facilité à utiliser les choses qui nous entourent pour y rattacher l'évangile, comme le faisait Paul, par exemple, dans ses voyages, en disant, eh bien, il y a à l'entrée de la ville une statue qui est à un Dieu inconnu. Moi, je vais vous dire qui est ce Dieu que je connais. Nous ne sommes pas forcément tous appelés à témoigner de l'évangile de la même manière, mais nous sommes tous appelés à en témoigner quand même. Et je dirais que même si Dieu ne nous demandait pas de le faire, eh bien, il me semble que ce sentiment, ce que Dieu a fait pour nous, qui est tellement fort et profond en nous, on devrait avoir envie de le transmettre simplement parce qu'on aimerait que d'autres le vivent. Simplement parce qu'on voudrait que d'autres le vivent. Je ne sais pas quelle passion vous avez, mais quand on a une passion, on aime parler de ce qu'on aime. On n'attend pas spécialement que quelqu'un nous dise « tu ne veux pas nous en parler ?» On en parle parce que ça nous anime. On aime ça. Et je pense que nous devrions avoir cette même envie de partager l'évangile à d'autres. Dieu veut toujours des ouvriers dans sa moisson. Dieu a dit de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est Dieu qui enverra les bons ouvriers dans la moisson. C'est Dieu qui se chargera de répondre à cette demande. Dieu ne nous demande pas que nous nous occupions de convertir les gens. Nous ne sommes pas en mesure de transformer intérieurement les personnes. Nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas. Dieu le peut. Mais il y a une chose que Dieu nous demande. Et celle-ci, mes amis, elle est très importante. Il y a une chose que Dieu nous demande. Il nous demande qu'on soit disponible. Et il nous demande qu'on soit fidèle dans le message qu'on annonce. L'apôtre Paul a dit « Vous êtes sauvés si vous avez retenu la bonne nouvelle telle que vous l'avez entendue. » Dieu ne nous demande pas que les gens soient convertis à la suite de notre prédication, mais il demande, il réclame que notre prédication soit juste par rapport à l'évangile. Si vous évangélisez plein de personnes et que vous ne voyez pas de conversion, c'est triste sans doute, parce qu'on aime voir les fruits de notre travail, mais ce n'est pas ça qui devrait le plus nous angoisser, entre guillemets. Ce qui devrait vraiment nous questionner, c'est de nous dire, est-ce que j'ai apporté l'évangile d'une manière qui est vraiment fidèle ? Est-ce que j'ai bien annoncé le bon message ? Moi, il me semble que ça, c'est important qu'on se pose la question. Parce que si on annonce un autre message, les gens ne peuvent pas croire. Donc Dieu nous demande d'être disponible, d'être fidèle au message. Il nous demande aussi de ne pas mentir aux gens. Moi, une fois, j'ai une personne, je faisais de l'évangélisation avec Jeunesse pour Christ, et puis je discutais avec deux jeunes filles, et puis une personne qui m'accompagnait, puis on échangeait un peu voilà, sur les choses qu'elles croyaient, etc. Et puis elle me dit « Oh, moi, je pense que je meurs, et puis il n'y a plus rien ». Puis elle me dit « Mais du coup, toi, tu crois que si je meurs, je vais en enfer ?» Ben ouais. Oh, mais c'est méchant, hein. Ben non. Ben tu... Alors déjà, tu m'as posé une question. Si tu veux, je peux te mentir, mais du coup, ben, ça sert à rien qu'on discute si je te réponds des mensonges. Et puis je lui ai dit, mais tu trouves ça méchant. Pourquoi tu trouves ça méchant? Elle dit, mais parce que moi, je veux pas aller en enfer. Je lui ai dit, mais t'as dit que ça n'existait pas. Alors du coup, ça existe ou ça n'existe pas? Si ça n'existe pas, tu risques pas d'y aller. Et je lui ai dit, tu sais, tu peux décider que c'est quelque chose de méchant et que du coup, le christianisme, c'est quelque chose de mauvais. Mais je t'ai pas juste annoncé qu'il y avait l'enfer qui existait. Hein. Je lui ai dit, je t'ai aussi annoncé qu'il y avait Jésus-Christ qui pouvait t'en délivrer. Mais on a besoin aussi des fois de dire aux gens oui. Si on ne croit pas, on est perdu. Il n'y a pas de voie médiane. Hein. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'endroit où on peut aller, où c'est pas tout à fait Dieu, mais c'est pas vraiment l'enfer. Jésus, il est très très clair. Hein. Et je crois que c'est René tout à l'heure qui citait ce passage quand il dit hein, ben, que Dieu il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il dit ensuite, celui qui ne vient pas au Fils, il est déjà condamné. Il n'y a que deux états. Hein. Soit on est pour Jésus, soit on est contre Jésus. Hein. Et on a besoin aussi, quand on annonce l'évangile, alors il faut le faire avec tact. L'idée, c'est pas de se mettre debout sur une voiture avec un micro et de dire « Vous allez tous mourir parce que vous êtes tous sous le coup de la condamnation de Dieu. Hein. » C'est pas comme ça. Hein. Mais c'est d'être aussi sincère à un moment dans la manière dont on témoigne aux personnes qui nous entourent, de dire « Mais tu sais, si tu choisis pas Jésus, t'es déjà condamné. » Moi, quand je le dis à des personnes, je le dis pas en rigolant et en étant content de moi. Hein. Je le dis parce que c'est salvateur. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. On dit toujours aux gens, il faut que vous croyiez en Dieu pour être sauvés. Mais sauvés de quoi? D'accord, moi si on me dit, tu as besoin de faire quelque chose parce que tu as besoin d'être sauvé, moi je veux bien entendre que j'ai besoin d'être sauvé, mais il faut qu'on me dise de quoi je dois être sauvé. Parce que sinon, comment je peux m'attacher à quoi que ce soit si je ne sais pas de quoi j'ai besoin d'être sauvé? Dieu nous demande que le message soit fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut être brusque. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire mal aux gens. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tellement les terroriser qu'ils vont se convertir à tout prix pour échapper à un truc qui leur fait peur. Mais il faut avoir la vérité. Il faut leur dire, soit on est pour Christ, soit on est contre Christ. Et si on est contre Christ, il n'y a pas de voie médiane, on est perdu. Dieu nous donne la sagesse, il nous donne les mots, il nous donne les moments, il nous donne la manière de le dire. Mais c'est quelque chose qui fait pleinement partie du salut que Christ apporte. C'est qu'avant lui, on est perdu. Sans lui, on est perdu. Dieu n'aurait pas sacrifié son fils innocent si ça n'avait pas été nécessaire. Et il l'a fait pour que nous puissions échapper à sa colère, à son jugement, et que nous puissions être réconciliés avec lui, parce que le désir de Dieu n'est pas que le juste périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Que le méchant, pardon. Le but de Dieu n'est pas que le méchant périsse, mais que il se... tourne vers Dieu. Et pour pouvoir se tourner vers Dieu, il faut tout le message, en entier. Dieu nous demande d'avoir confiance en lui et en son évangile. Des fois, on se dit, j'ai pas été très bon dans ce que j'ai dit, j'ai raté des occasions, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pas très grave. Pas dans le sens où il faudrait prendre l'évangélisation à la légère ou le salut des personnes qui nous entourent à la légère. Mais ce n'est pas forcément très grave si on s'est peut-être un peu raté. Et je vais vous donner un petit témoignage pour vous expliquer quelque chose. J'ai un jour parlé avec quelqu'un qui s'était converti et je lui ai demandé voilà, comment est-ce qu'il était venu à rencontrer le Seigneur, quel était son cheminement. Et puis il m'a dit, ben moi j'allais à l'église, hein, j'entendais vraiment tout, mes parents ils m'enseignaient, etc. etc. J'entendais plein de choses à l'église, à la maison. Et puis un jour je suis allé à une réunion d'évangélisation et je me suis dit, ah ça y est. Il va me dire que c'est là. Puis il me dit, j'ai tout écouté, j'ai tout entendu, et puis ça m'a absolument rien fait. J'étais là genre, ah bon, bon, d'accord. Bon, ben voilà. Mauvais pari, c'était pas là que ça a changé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que ça a changé? Il a dit, ce qui a changé, c'est qu'un jour, j'ai lu la Bible. Et là, j'étais sûr. Et il m'a dit, j'étais sûr parce que la Bible, elle le disait, et en même temps, j'étais sûr parce que c'est vrai, je me suis rappelé de tout ce qu'on m'a déjà dit. Mais il m'a dit, on m'avait annoncé tout plein de fois l'évangile super bien. C'était complet, il manquait rien. Mais il disait, c'est le jour où je me suis confronté moi-même, tout seul à la parole, que ça m'a fait quelque chose. Donc vous voyez, parfois, peut-être qu'on est maladroit, il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas toujours très bien, mais quand l'Esprit de Dieu parle, soit par nous, soit par la parole, soit par autre chose, les gens peuvent se convertir. La conversion ne repose pas sur nous. Dieu veut qu'on soit fidèle, Dieu veut qu'on soit de bons ouvriers, mais il ne va pas nous en vouloir. Si jamais une personne ne s'est pas convertie. La conversion, ça reste le choix personnel de la personne. Si nous, on a fait tout ce que Dieu nous attendait de nous, on a fait ce qui était bien. Mais, par contre, nous devons être fidèles et honnêtes dans toutes ces choses-là. Parce que Dieu peut avoir ensuite à nous dire « Mais pourquoi est-ce que tu as caché telle chose? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ça? Pourquoi est-ce que tu as transformé ce message à un moment ?» Nous sommes appelés à être fidèles. Et nous verrons Dieu faire d'autres choses. Et nous pouvons faire confiance à Dieu parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné l'esprit pour nous accompagner, pour nous parler, pour nous diriger et pour nous qualifier. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, Dieu nous rend capable de répondre à cet appel. Nous ne sommes jamais de toute façon vraiment capables. Parce que les choses qui concernent Dieu, ce sont des choses qui concernent Dieu. Et que, sauf preuve du contraire, nous ne sommes pas Dieu. Du coup, quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous appelle avec nos limites. Il nous appelle avec nos difficultés. Il nous appelle avec les choses qui doivent être encore mises en ordre. Il nous connaît profondément, il voit bien au-delà de nous-mêmes. Il voit bien plus profond, il comprend les choses que nous-mêmes, nous ne comprenons pas sur nous. Parce que Dieu est Dieu, et quand il nous appelle, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu nous permet d'être capable d'accomplir la tâche qu'il nous demande. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais ce qu'on fait, on le fait avec l'aide, avec le secours, avec le support de Dieu, par l'Esprit Saint. Dieu ne nous tend pas un piège quand il nous appelle à faire quelque chose. Quand Dieu nous appelle dans un ministère ou à une tâche particulière, Dieu nous rend capable d'accomplir cette tâche. Il est avec nous, il l'a dit hein, aux disciples. Quand il les a envoyés, il a dit d'abord, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, ce que je vais vous demander maintenant, vous pouvez l'accomplir parce que moi j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas par vos propres forces que vous allez faire ce que vous allez faire. Parce que tout seul, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais il dit ensuite qu'il est avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai tous les pouvoirs, c'est pour ça que j'ai le droit de vous envoyer. Et sachez que moi, je suis avec vous. Ce que vous allez faire, vous allez pouvoir le faire parce que moi, j'ai tous les pouvoirs et c'est moi qui vous envoie, c'est moi le maître de la moisson. Et en plus, je suis avec vous. C'est à cause de ces deux choses-là que les disciples peuvent y aller et que ça marche, que ça fonctionne, que ce que Dieu a dit se produit. Si vous enlevez ça de l'équation, rien n'aurait fonctionné, rien n'aurait marché. Nous pouvons avoir confiance en Dieu quand Dieu nous appelle quelque part. Ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas peut-être des questionnements, des doutes, peut-être un peu des fois des craintes. Ça ne veut pas dire que tout est parfait du premier coup. Mais Dieu est un Dieu fidèle qui ne nous tend pas des pièges en nous disant « ça y est, t'es là, bon ben moi je m'en vais ». Dieu ne fait pas ça. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il nous a donné la parole aussi, pour nous encourager et pour nous enseigner. Lisez-la. Aimez-la. Je ne sais pas ce que c'est la chose que vous aimez le plus manger. Mais quand on mange ce qu'on préfère, quand Georges il mange un bon plat que Marianne lui a fait, il se délecte de ce qu'il mange. Il est content de ce qu'il mange. Le Seigneur, il veut qu'on aime la parole comme ça, il veut qu'on se délecte de la parole. Qu'elle soit douce pour nous, qu'elle nous encourage, qu'elle nous reprenne aussi des fois, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous dirige. Le Seigneur désire qu'on ait de l'amour pour sa parole. Et on est très mal placé de des fois dire « Ah mais oui, j'aime vraiment beaucoup Dieu » et puis finalement, on lit tellement peu la parole qu'on ne sait pas vraiment qui est Dieu. Du coup, on ne peut pas vraiment l'aimer. Pour aimer une personne, il faut passer du temps avec lui. Passer du temps avec Dieu, c'est dans la prière, mais c'est aussi dans la parole. Aimons cette parole, serrons-la contre notre cœur. Vous vous rappelez peut-être de ce passage où Paul est en prison et puis il dit « Eh bien, j'aimerais que tu fasses venir vers moi mon manteau et mes livres. » Alors, livres, c'était pas livres dans... comme ça, hein, c'était plutôt des rouleaux. Hein. Mais Paul voulait pouvoir lire ces choses. Il en avait besoin. Dieu nous a donné aussi quelque chose d'extraordinaire. Qui nous apparaît peut-être pas toujours extraordinaire, mais il nous a donné l'Église, il nous a donné les frères et sœurs. Il nous les a donnés pour qu'ils puissent nous soutenir, qu'ils puissent nous conseiller, mais aussi qu'ils puissent œuvrer avec nous. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Il a donné aussi aux apôtres la promesse qu'il était avec eux. Et cette promesse qu'il a faite aux apôtres, eh bien, nous pouvons aussi l'avoir pour nous-mêmes. Si Dieu nous appelle à une tâche quelque part, il ne se dérobera pas. Il nous accompagnera. Il nous aidera. Il nous rendra capables. Il nous a aussi donné l'évangile dans des langues nombreuses pour que, quelles que soient les personnes que nous rencontrions, nous puissions leur donner quelque chose qu'ils peuvent comprendre dans leur propre langue. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ça, c'est aussi un miracle que Dieu a accompli. Sa parole est accessible dans toutes les langues, quasiment toutes les langues. Et surtout, Dieu nous a donné Christ. Et Jésus a dit, je bâtirai moi-même mon église. Jésus bâtit son église, il a commencé à la Pentecôte et il l'a bâtie tous les jours depuis, jusqu'au moment où il reviendra la chercher pour célébrer avec elle le banquet de ses noces. En tant qu'église, nous, l'épouse de Christ, nous serons réunis avec notre époux et nous fêterons ce repas. Par ce repas, nous fêterons cette union. Les noces de l'agneau, les noces de Christ, le repas de son mariage avec son épouse. Pour nous les hommes, c'est peut-être un peu des fois étrange de considérer les choses comme cela. Mais c'est bien l'image. Christ bâtit l'église, un jour il viendra la chercher et nous célébrerons par un repas le fait que nous serons avec lui pour l'éternité et qu'il aura été fidèle à sa parole parce qu'il sera revenu nous chercher. Et il l'a dit, Jésus l'a dit, je crois que c'est toi Georges ce matin qui l'a lu, qu'il va bâtir son église et que les portes du séjour des morts, elles ne prévaudront pas contre elle. Le séjour des morts pourrait être à nos portes, il ne pourrait pas nous détruire, il ne pourrait pas détruire l'église de Christ parce que c'est Christ qui l'a construit et que rien ni personne ne peut rien contre elle. Dieu accomplit toujours sa parole sans tarder, toujours à temps. Au moment qu'il a choisi, qu'il a décidé, qu'il a décrété de toute éternité, il envoie l'Esprit sur les apôtres. Il les qualifie pour leur ministère d'évangélisation et il commence l'église de Christ à ce moment-là. Mais en plus de commencer l'Église, il accomplit aussi le plan qu'il avait prévu de toute éternité, où il avait décidé qu'il sauverait des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et pour finir, la moisson commence. Oui, Jésus avait déjà constaté que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Jésus va envoyer les premiers ouvriers dans la moisson, en leur donnant l'Esprit Saint pour qu'ils puissent parler dans des langues compréhensibles pour des personnes qui sont en face d'eux. Et aujourd'hui, nous continuons de moissonner. Nous continuons aujourd'hui de moissonner et l'Église de Christ continue de grandir aujourd'hui. La Pentecôte, c'était juste le début, les prémices, les premiers fruits. Mais nous continuons maintenant ce qui a été commencé à cette époque-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser deux sujets de prière. Aujourd'hui, je ne vous donne pas de défis. Non pas que je n'en ai pas. J'aurais pu vous donner des défis quant à l'évangélisation. Mais j'aimerais aujourd'hui vous laisser deux sujets de prière. Parce que des fois, nous avons aussi besoin de nous arrêter et de glorifier Dieu plus particulièrement. Le premier sujet que j'aurai aujourd'hui, c'est que nous puissions exprimer notre reconnaissance envers Dieu parce qu'il a été fidèle dans l'accomplissement des promesses de salut, à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Et si Dieu a été fidèle par rapport à cela, si Dieu a été fidèle dans ses promesses pour cela, il sera fidèle dans les autres promesses qu'il a faites et qui n'ont pas encore été accomplies. La fidélité de Dieu est inébranlable. Il ne change jamais d'avis. Il ne change jamais d'avis. Alors, puissions-nous cette semaine, dans notre culte personnel, vraiment dire merci au Seigneur parce que si Dieu n'avait pas tenu ses promesses, à part Chantal, on serait tous dans nos péchés. Mais Dieu a tenu ses promesses. Il avait dit qu'il sauverait ceux qui n'étaient pas juifs, et il l'a fait. Alors vraiment, louons-le et remercions-le par nos prières cette semaine. Et rendons aussi gloire à Dieu pour la grandeur de son œuvre. Dieu a pris des gens de toute langue, de toute nation, de tout arrière-plan culturel et religieux. Il les a amenés à Christ, ils ont cru que Christ était le Sauveur, le Messie, et ils sont devenus ensemble un peuple nouveau, l'Église. Il ne s'est jamais produit cela ailleurs dans l'histoire du monde. Jamais. Dieu a fait quelque chose d'unique qui ne pourra jamais être reproduit, qu'aucune autre religion, aucun système ou quoi que ce soit ne pourrait avoir la prétention de vouloir reproduire. Rendons gloire à Dieu parce qu'il a fait naître l'Église à la Pentecôte. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes dans cette Église. Nous avons, nous aussi, été moissonnés par Dieu. L'histoire de notre moissonnage, je dirais, est différente pour chacun. Mais c'est bien Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Alors rendons gloire à Dieu aussi pour cela. Parce que ce que nous sommes, nous le devons à Christ. Nous le devons au désir de Dieu et à sa fidélité. Nous ne sommes pas les premiers fruits de la moisson, mais nous ne sommes pas non plus les derniers. Il y en a d'autres qui viennent après. Alors demandons à Dieu aussi de nous rendre capables d'apporter l'évangile à ceux que nous côtoyons, pour que d'autres personnes puissent elles aussi être sauvées par Christ. Amen. Je vais juste courtement prier. Père éternel, je te remercie pour ta fidélité qui est à toute épreuve. Je te remercie parce que lorsque tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Tu n'es pas quelqu'un qui change d'avis, tu n'es pas quelqu'un qui prend une décision et puis finalement après tu reviens dessus parce que tu aurais été déçu ou parce que tu aurais trouvé qu'on n'aurait peut-être pas vraiment fait ce qu'il fallait ou quoi que ce soit. Tu es ce Dieu qui est fidèle jusqu'au bout. Jésus avait dit que le Saint-Esprit viendrait pour que les apôtres soient témoins. Et c'est ce qui s'est passé. Tu avais promis que tu sauverais des peuples de toute langue et de toute nation et tu l'as aussi fait à partir de la Pentecôte et déjà par petites touches dans l'Ancien Testament. Tu as dit qu'on pouvait demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson et ça a été fait. Nous pouvons avoir toute confiance en toi parce que tu ne changes pas et tu accomplis toujours ce que tu dis. Je te prie, Père éternel, c'est vrai, pour que nous puissions vraiment te rendre gloire pour ce que tu as fait, parce que c'est un événement unique. Rien ni personne ne peut surpasser ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous tous qui sommes ici, nous avons été sauvés parce que tu as fait tomber le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, par Jésus-Christ. Tu as voulu tous nous sauver par un même sacrifice, par un même sauveur. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants, parce que tu as accompli ces promesses de salut pour les nations. Je te prie aussi pour que tu nous accompagnes, pour que lorsque nous parlons de toi, lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons le salut à d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore, tu puisses nous donner d'être toujours juste, d'être dans la vérité, de pouvoir dire les bons mots, les bonnes paroles, d'avoir les bonnes attitudes, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous et nous voulons compter sur toi. Nous n'y allons pas avec nos propres forces. Mais nous voulons aussi répondre à cet appel. Tu veux que nous puissions partager le message de l'Évangile et nous voulons le faire. Veuille nous accompagner quand nous le faisons, pour que d'autres puissent aussi venir à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom que j'ai prié ce matin, Seigneur. Amen.